Slate Podcast.
Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leur désir entre la première et la dernière fois. Anna est une femme cis de 39 ans. Elle se définit comme bisexuelle, mais précise qu'elle est plus croyante que pratiquante en ce moment. Anna est graphiste à Paris, où elle habite depuis 20 ans. C'est une âme créatrice, qui explique que le dessin est son espace de liberté et de sécurité, où elle peut faire tout ce qu'elle veut et se faire entendre sans avoir besoin de crier. Bonjour Anna.
Bonjour.
Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ?
Oh, tutoyons-nous.
Alors maintenant qu'on se tutoie, on va rentrer directement dans le vif du sujet, sans transition aucune. Mm-hmm. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ?
Oui, très bien. C'était il y a fort longtemps maintenant. J'étais lycéenne à Marseille, là d'où je viens. J'avais rencontré ce garçon qui était interne aussi dans le même lycée que moi. S'en est suivi une petite amourette. Tout a été en fait très conventionnel dans cette histoire-là. Voilà, on s'est rencontrés, on s'est plu. On a commencé à sortir ensemble, de fil en aiguille. Il est venu quelques fois chez moi. Et puis, alors si on parle en termes de sexe pénétratif, on a fini par faire du sexe pénétratif, ce que moi j'appelle ma première fois.
C'était bien.
Oui, c'était bien, c'était très mignon, c'était un peu maladroit, mais enfin c'était ça cochait toutes les cases à l'époque de ce qui me semblait être une première fois réussie.
Tu l'avais prévu, toi, tu en avais envie de ton côté ?
Moi, ça faisait 4 ans que j'étais prête. Hein. J'ai eu ouais, je pense que au début de l'adolescence, j'ai eu une espèce de montée d'hormones assez fracassante et oui, j'étais ultra prête depuis longtemps. J'attendais que ça arrive. J'étais pas d'ailleurs très à cheval sur l'idée que ça devait être quelqu'un dont j'étais amoureuse, mais là, ça s'est trouvé comme ça et c'était très bien.
Tu te souviens avoir eu du plaisir ?
Oui. Pas des masses. Encore une fois, l'idée que je m'en faisais, c'était à peu près ce plaisir-là, c'est-à-dire pas terrible, mais pas désagréable, pas très douloureux. On était amoureux, enfin c'était vraiment ouais, l'image d'Épinal de la première fois.
Comment tu t'es sentie après ?
J'étais soulagée. Je crois que j'étais la dernière de ma bande de copines à le faire. Je me sentais un peu à la bourre, donc ouais, j'étais soulagée, j'étais contente, un peu fière de pouvoir le dire. J'avais l'impression d'être, oui, d'être un peu plus grande.
Vous avez fait ça chez toi ?
Oui, à l'époque, je rentrais de l'internat le week-end chez ma grande sœur qui habitait pas très loin de mon lycée. Donc ça s'est passé là-bas. Et l'anecdote marrante, c'est que je ne sais pas comment on s'est retrouvés dans le lit de ma sœur, mais il se trouve que ça s'est passé dans le lit de ma sœur, sans rien dire, parce que donc il y a eu un peu de sang. Sans rien lui dire, j'ai changé les draps de son lit pour pas me faire gauler en fait. Et évidemment, je me suis égaulée parce que en rentrant, elle a vu que ses draps avaient été changés et elle m'a dit mais pourquoi les draps ont été changés ? Je crois que j'ai un peu sourit bêtement sans trop lui répondre et que on a échangé un éclat de rire parce qu'elle a tout de suite compris ce qui s'était passé. Elle savait que ce garçon-là venait ce week-end-là à la maison.
Ça a duré un petit peu entre vous ?
Pas vraiment. C'était vraiment une histoire. Ça a dû durer 3 mois, quelque chose comme ça. C'était vraiment une petite amourette. Non, c'était assez fugace.
Il y a eu d'autres rapports sexuels entre vous pendant ces 3 mois ?
Oui. Mais pas énormément. En fait, j'ai vite compris que je m'amuserais pas beaucoup avec ce garçon-là, sexuellement en tout cas. Je pense que l'amour aussi que j'avais pour lui s'est tari très rapidement. Lui, non. Lui, au contraire, ça n'a fait que s'amplifier. Il y a eu vite un décalage entre nous. Je me souviens d'une fois où, justement, moi, j'avais envie de tester plein de choses. Enfin, j'étais hyper enthousiaste de commencer ma vie sexuelle. Et je me souviens de cette fois où j'avais plus ou moins sous-entendu l'idée que on pouvait tester une fellation. Et je me souviens que du haut de ses 17 ans, puisqu'il avait le même âge que moi, il m'a dit « Non, pas toi ». C'était un compliment. C'est marrant qu'il y avait un goût un peu amer parce que ça voulait dire « Non, c'est non toi, je te respecte trop pour que tu me suces ». Et je me suis dit « Merde, on va pas trop s'amuser tous les deux ».
Alors même si ça a pas duré éternellement, tu sens qu'il y a eu une évolution quand même dans vos rapports sur ces 10 fois ou au contraire, bah du coup, tu t'es vite rendu compte que ça allait être un petit peu pareil tout le temps et que ça a confirmé ton sentiment.
Non, j'ai surtout le souvenir de cette première fois-là qui m'a marquée parce que c'était très joli et très mignon. Les autres fois, j'en ai aucun souvenir. Non, c'était très très vite plié en fait cette histoire. On s'est séparés. Ça ne s'est pas très bien passé puisque lui était fou amoureux et que moi j'étais déjà loin. Quoi. Donc non, une histoire assez fugace.
Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie. Je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé et que c'est un j'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Alors ça peut être un souvenir, une envie ou une anecdote ou le contraire d'une envie. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires.
Oui.
C'était bien.
Oui, c'était bien. Ça faisait partie des grandes choses qui me semblaient interdites, enfin très réservées à une sexualité très particulière. Moi, j'étais, je pense, très très vanille et même pire que ça, en fait, très basique dans ma sexualité pendant longtemps. Donc la sodomie sur mes partenaires, ça fait assez peu de temps que j'ai commencé à expérimenter ça. J'ai vu le plaisir de mes partenaires, j'ai trouvé ça assez chouette d'être à cette place-là aussi, alors que d'habitude c'était plutôt l'inverse.
Alors c'était avec des objets, avec tes mains, avec...
C'était avec ma bouche ou mes mains.
T'as pas essayé le goût de ceinture
Pas encore.
Mais je sens que c'est sur la liste.
Pas encore, mais oui, il y a des envies un peu comme ça. Il faut trouver les bons partenaires parce qu'ils sont pas tous partants pour aller jusque-là. Mais les doigts, oui, ils sont assez...
On est déjà équipés pour tout ça, en fait. C'est ça qui est magique. J'ai déjà été sodomisée.
Oui.
Pareil, c'est quelque chose que tu apprécies.
Ça reste de l'exceptionnel, c'est pas tout le temps. J'aime bien parce que il faut se faire confiance, parce que ça demande beaucoup de douceur. Sinon, de toute façon, ça ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est réservé à des partenaires doux et en qui j'ai toute confiance. Ça renforce un lien quelque part, je sais pas.
Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, en particulier des romans érotiques, justement, qui parlaient de ce fameux lien qui est créé pendant la sodomie. Alors, avec beaucoup d'emphase, beaucoup de grands mots, de grandes phrases. Mais c'est souvent ce que disent les gens qui pratiquent avec des partenaires avec qui ça se passe bien. Avec qui, effectivement, c'est un moment de partage, un moment de don, de confiance. Et quand ça marche, c'est assez magique.
En fait, j'ai été en couple pendant 10 ans avec quelqu'un qui, je pense, ignorait la présence d'un anus chez moi, qui non seulement il ne s'y est jamais aventuré avec rien, mais on ne pouvait pas non plus en parler. Au départ, c'était une blague. Du coup, j'aimais bien le titiller là-dessus. Et puis, en fait, j'ai compris que c'était un grand tabou chez lui. Donc évidemment, j'ai jamais eu accès au sien. Il a jamais cherché à avoir accès au mien. Et après cette très longue relation, quand j'ai commencé à retester ça, parce que j'avais quand même un peu testé dans ma jeunesse, j'ai trouvé ça génial, en fait, l'idée d'être désirée entièrement et qu'il n'y ait pas une partie de moi qui soit pas approchable ou j'en sais rien ou sale ou... Non, j'ai rencontré des partenaires qui me désiraient entièrement, des pieds à la tête et en passant par là aussi.
J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe ou à n'importe quoi d'un peu rébarbatif et chiant.
Quand c'est chiant, oui, je pense à autre chose et je prie pour que ça se termine vite.
Tu dis pas stop, je suis plus dedans, on arrête?
Non, je devrais réussir à le faire, mais j'y arrive pas. J'ai peur de vexer la personne, mais donc il m'est arrivé de simuler à la place. Mais je pense à autre chose. Oui, je dois m'évader un peu, mais pas avec la liste de courses.
Le travail, les trucs.
Oui, n'importe quoi pour.
Tiens, il faut que j'envoie un cadeau pour la naissance de ma nièce.
C'est
ou
ça,
ce genre
ouais.
de truc.
Ouais.
J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe.
Je crois pas, non. Non, vraiment pas. Les personnes avec qui je couchais, avec qui j'ai déjà couché, j'ai toujours eu très envie de ces personnes-là. Donc non, ça m'est jamais arrivé, ça.
Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour.
Oui, l'exemple le plus drôle, c'était les toilettes d'un train, alors que j'étais en train de sextoter avec un amant. Et je sais pas, je devais être en période d'ovulation et c'est vraiment monté assez fort et alors que je suis plutôt casanière pour ce genre de pratique et qu'il faut que je sois bien installée et dans mon lit et comme ci et comme ça et là c'était indispensable.
T'as réussi à t'installer confortablement parce que les toilettes de train c'est quand même un peu
alors
bordel,
non
quoi.
Non justement et c'était très drôle et j'ai envoyé des photos à la personne avec qui je sextais pour lui montrer dans quel état il me mettait et dans quel état j'étais obligée de m'installer pour non c'était assez drôle.
T'as pas eu des gens qui ont tapé à la porte
Non, à vrai dire, j'ai arrêté très vite parce que je sentais que c'était un peu trop casse-gueule.
Littéralement.
C'est littéralement casse-gueule, ouais.
Dans un endroit à l'hygiène douteuse, enfin, il y a rien qui.
Ouais, non, c'est vrai, c'est ça, il y a rien qui va et il y a rien qui. Non, c'est très drôle.
Ça a le bénéfice d'exister quand même, ces endroits. Donc voilà, on ne juge pas le truc, mais c'est vrai que non, c'est assez peu pensé pour. Enfin, c'est même. En fait, en vrai, c'est même assez peu confortable de manière générale en termes d'accessibilité.
Oui.
Il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui, mais oui. Moi, j'ai des souvenir de toilettes un peu aux quatre vents comme ça, avec tout qui on bouge dans tous les sens, on est ballotté. Pourquoi pas après pour une expérience extrême
Oui.
Après ton histoire de 3 mois au lycée, tu te retrouves en fait un peu tout le temps en couple, jusqu'à tes 34 ans, dont une histoire qui dure 10 ans.
J'ai toujours été en couple, c'était des couples qui duraient un an ou deux, et puis une longue histoire, oui, de mes 24 à mes, 34 ans.
Comment tu la vois, ta sexualité en couple ? Est-ce que c'est la seule façon dont tu l'imagines ?
Alors à cette époque-là, oui. Sachant que j'ai eu des partenaires très différents dans leurs approches de la sexualité. Je me souviens notamment d'un ex avec qui c'était très joyeux. En fait, c'est vraiment ça qui m'a marquée. C'était l'enthousiasme, la curiosité et on a exploré plein de choses ensemble. C'était l'histoire avant ma longue histoire. Cette longue histoire a été complètement différente. C'était très cadré, en fait. On n'a pas exploré beaucoup de choses. C'était pas très drôle, en fait. Je pense que très rapidement, je me suis mise, moi aussi, à ne pas être très drôle et à ne plus avoir l'intention de tester des choses ou de proposer des choses, puisque j'avais bien compris à quoi la sexualité allait ressembler entre nous et que, bon, bah, c'était à prendre ou à laisser. Il m'est arrivé de beaucoup fantasmer sur d'autres personnes pendant cette relation. Il m'est aussi arrivé d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes pendant cette relation. Ce serait un peu réducteur de dire que c'est juste à cause de notre sexualité que je trouve trop plan-plan, mais il y avait d'autres choses dans notre couple qui faisaient que j'avais envie de m'évader. Et donc, je l'ai fait un peu la mort dans l'âme en culpabilisant très fort, alors même que, en fait, on s'était jamais... Le contrat, il était tacite, en fait, comme il l'est souvent dans les couples, c'est-à-dire qu'on s'était... On n'avait même pas eu besoin de se mettre d'accord sur le fait que la fidélité, pour nous, c'était la monogamie, et il n'était même pas question de ne serait-ce que de désirer quelqu'un d'autre, en fait. Notre couple, c'était ça. C'était... On avait un désir l'un pour l'autre et on faisait du sexe l'un avec l'autre et c'était tout. Puis en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ce contrat de fidélité, lui, par ailleurs, il mettait des coups de canif dedans, mais sur d'autres terrains, notamment sur des projets artistiques qu'on pouvait avoir ensemble et puis qui ne donnaient jamais lieu à rien et qu'il pouvait développer par ailleurs avec d'autres personnes. Ou sa façon de pas être bienveillant avec moi à certains égards, parce qu'on a eu des épreuves un peu difficiles dans ce couple-là et il m'a clairement laissé tomber et je me suis dit merde, moi je me mets la pression pour être fidèle avec lui, pour ne pas juste coucher avec quelqu'un, alors que moi j'y mets pas beaucoup d'importance en fait dans ce geste-là. En revanche, le fait que d'être bienveillant l'un envers l'autre, d'être un soutien sans faille, moi j'y mettais beaucoup d'importance et ça c'était quelque chose qu'il ne me donnait pas. Et quand bien même lui ne respectait pas sa part du contrat qui était tacite, hein, encore une fois, on n'en avait pas parlé, moi je culpabilisais très fort de pas respecter la mienne.
Quand tu le trompais, t'arrivais à prendre du plaisir quand même ou c'était vraiment que de la culpabilité ?
Non, sur le coup, c'était beaucoup de plaisir. La culpabilité, elle venait ensuite très forte et longtemps. Mais sur le coup, non, c'était super, je m'évadais, je pensais à rien.
C'était des histoires ou c'était que des coup d'un soir ?
C'était plutôt des histoires, en fait, maintenant que j'y pense. Il y a toujours eu de la tendresse, voire une certaine forme d'amour. Pendant cette histoire-là, j'ai été amoureuse de quelqu'un d'autre, avec qui il ne s'est jamais rien passé, mais pour autant, j'ai quand même culpabilisé très fort, parce que, pour le coup, là, ça rentrait pas non plus dans le contrat de fidélité. J'ai surtout le souvenir d'une relation comme ça, qui a été très fugace, mais j'avais beaucoup de tendresse pour cette personne-là, et c'était réciproque, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait, et il a décidé d'arrêter, parce que lui, de son côté, il arrivait pas à assumer le fait de lui-même tromper la personne avec qui il était. Puis finalement, j'ai été triste pendant quelques jours, et puis je suis passée à autre chose, mais oui, globalement, c'était pas des coups d'un soir, quoi. C'était plutôt des gens qui me faisaient quelque chose.
Quand vous arrivez à vous quitter, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi ? Il faut reconquérir beaucoup de choses, il faut que tu apprennes à mieux te connaître aussi sur certaines questions, sur certaines règles du couple, le respect, la confiance, tout ça que tu as découvert. Et j'imagine que quand on est dedans, on se dit pas « c'est là-dessus qu'il faut que je travaille », c'est après que ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est pas venu tout de suite après. Ça a pris du temps. En fait, quand je suis sortie de cette relation, quand bien même elle avait été éprouvante, elle avait duré 10 ans, il y avait plein de choses qui me plaisaient pas et pour lesquelles j'étais sûre que je re-signerais pas, je me suis tout de suite inscrite sur des applications de rencontres dans le but de trouver le nouvel homme de ma vie. Il n'était pas question de que je reste seule. Pour moi, il y avait rien de pire que la solitude et le célibat. Donc, je m'étais fixée peut-être un mois ou deux de joyeuseté et de culotte sur la tête, et puis après, c'était terminé. De toute façon, j'étais persuadée que quelqu'un allait me mettre le grappin dessus très vite. J'y en fait pas du tout, mais j'ai quand même eu énormément de chance de tomber très vite, en fait, sur des personnes lumineuses et avec qui tout se passait simplement, et qui n'avaient pas du tout le même rapport au couple. Déjà, c'était pas des personnes qui voulaient se mettre en couple, donc le contrat à la base, il était très clair. Mais surtout, leur façon de voir le monde et la vie et la sexualité, à chaque fois, à chaque partenaire, parce que du coup j'ai quand même enchaîné puisque ben l'homme de ma vie ne s'est pas présenté, et puis finalement je trouve que c'est très bien comme ça. Chaque nouvelle expérience, c'était un regard différent, c'était vraiment une nouvelle porte qui s'ouvrait ou une nouvelle dimension que je découvrais. C'était génial parce que je me disais, ah mais oui, ça peut être comme ça, ça peut être simple et lumineux. Et très vite je me suis dit, je veux que ce soit comme ça, je dérogerai pas en fait. Maintenant, j'avais accepté beaucoup de choses dans cette longue relation. J'avais conscience que c'était pas ce que je voulais moi, je m'étais dit qu'il fallait le faire. Et à partir de là, quand j'ai vu que d'autres personnes ne fonctionnaient pas comme ça, je me suis dit non, maintenant c'est terminé, il n'y aura plus de compromis sur certaines choses.
C'était quoi ta plus grande reconquête de sexualité dans cette phase-là ? Qu'est-ce que tu as découvert ou redécouvert sur toi et sur ton plaisir ?
Je pense que c'est la joie dans le sexe. Et la non-monogamie, ça c'était une grande première dans ma vie. La non-monogamie, mais assumée avec des personnes qui pratiquaient aussi la même chose, de manière complètement décomplexée et hyper respectueuse. En fait, pour moi, c'était la non-monogamie, c'était de la tromperie. En fait, il y avait une espèce d'amalgame comme ça que je faisais, alors que non, c'est des gens qui pouvaient ou peuvent, parce que c'est encore de ce genre de relation que j'ai aujourd'hui, me parler de leurs partenaires par ailleurs, des personnes qu'ils ont vues, qu'ils voient encore, et tout ça est extrêmement respectueux, chacun à sa place. Et maintenant, ça me paraît évident que je veux pas faire de grandes phrases en disant que maintenant ce sera ça ma vie, j'en sais rien. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui ça fonctionne, et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne dans un respect incroyable, et en s'intéressant vraiment à la personne, en adaptant vraiment chaque chose à la personne qu'on a en face de soi. J'ai fait des rencontres incroyables depuis que donc je suis célibataire depuis 5 ans. Chaque personne m'a apporté quelque chose de fort, et à chaque fois j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose et de voir un peu plus loin.
Est-ce que c'est pas aussi plus facile pour se libérer de la relation quand elle ne marche plus ? Est-ce que cette liberté-là, elle permet pas aussi de s'écouter un peu plus et de se dire, là je le sens plus, ça marche plus bien, on va prendre une petite distance ou on peut se séparer et c'est pas grave ?
Oui, c'est facile en fait. C'est facile parce que j'ai pas d'attache en fait. J'ai pas d'attache et les personnes que je rencontre sont à peu près dans le même état d'esprit que moi. Il n'y a jamais eu de drama en fait dans ma vie depuis 5 ans, contrairement aux fois où j'ai été dans des couples installés, parce qu'il n'y a pas d'enjeu et que tout est fluide. Donc je sais pas, peut-être que le jour où je tomberai amoureuse ou que la personne en face de moi tombera amoureuse et qu'il y aura de la douleur ou que j'en sais rien, on se reposera la question. En tout cas, jusque-là, tout est simple.
Après, je voulais pas dire de façon implicite que les relations de ce type ne portent pas aussi leur lot de sentiments, de respect, d'écoute de l'autre. Je pense que c'est le cas aussi.
Ah oui, bien
c'est
sûr.
C'est juste qu'il y a pas la lourdeur du couple tel qu'on l'envisage, tel qu'on nous l'a appris, je pense surtout, du couple hétérosexuel monogame qui est quand même assez compliqué à gérer. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec notre jeu « Je n'ai jamais », toujours avec les mêmes règles. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour.
Oui, ça fait longtemps. Oui, ça m'est arrivé, il doit y avoir une sextape quelque part chez un de mes ex. Je l'ai fait qu'une fois.
T'as pas demandé à la récupérer à la fin de l'histoire ?
Non, je lui fais confiance. Je sais pas ce qu'il en a fait, peu importe. C'est pas.
Il est peut-être au fond de son disque dur et il l'a oublié, là. Comme je pense beaucoup de sextapes. Est-ce que tu l'avais revu à l'époque ? Est-ce que t'as le souvenir du sentiment que tu as eu en te voyant faire l'amour en vidéo ?
Ça m'a pas passionné de me revoir parce qu'il était question d'une fellation, donc on ne voyait que moi. Et c'était une espèce de POV. C'était mon partenaire qui filmait, donc on ne le voyait pas lui. On voyait son attribut sexuel. Non, ça m'a pas fait grand chose. En fait, c'était un peu. Je crois que je faisais ça surtout pour lui, en fait. Et c'était marrant.
Bon, tu regrettes pas, mais ça t'a pas
non,
marqué.
Non, c'est
quoi.
Ça, ouais.
J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement.
Oui, ça c'est un grand jeu. C'est pareil, hein, c'est pas très vieux, mais j'ai du plaisir à le faire et je commence à recevoir des nudes de qualité de certains hommes que je fréquente, ce qui n'est pas monnaie courante. J'aime bien ça.
En tant que qu'artiste ou amoureuse de l'art, est-ce que tu étudies justement la lumière, l'angle ? Est-ce que tu travailles beaucoup tes nudes ?
Oui, alors moi, mes nudes, ils sont tous sauf spontanés. Hein. L'espèce de photo prise dans les toilettes à moitié déshabillée, ça, je ne connais pas et ça n'arrivera là, probablement jamais. Puisque non, au contraire, il y a vraiment des setups qui sont étudiés et la lumière est... Oui, c'est pas arty parce que le matos ne suit pas, hein, mais en tout cas, c'est recherché et j'aime bien ça aussi en face. J'aime bien quand c'est pas trop cru, trop dégueulasse, trop flou, trop typique. Typiquement, le truc fait à la va-vite dans les toilettes du boulot, ça me fait pas grand-chose et j'aime bien quand on s'est un peu pris la tête.
Est-ce que tu les aimes, tes photos ? Tu les gardes ?
Oui, je les aime bien et je les garde et je les... En fait, comme je vis seule, alors j'ai des partenaires, mais grosso modo, le seul regard que j'ai sur moi... C'est moi. Je me dis, pour avoir une trace de ce moment-là, en fait, il faut quand même dire que la personne avec qui j'ai été pendant 10 ans faisait beaucoup de photos, donc j'ai beaucoup de... cette période-là de ma vie est documentée en termes de photos, et puis d'un coup, plus du tout. Et je me suis dit que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et que si je devais garder une trace, en fait, il n'y avait que moi pour le faire, donc je l'ai fait. Donc oui, j'aime bien les garder, j'ai tout gardé.
J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour...
Ah oui, pas énormément non plus, parce que en termes de confort, je crois que je suis un peu exigeante, mais j'ai des souvenirs justement d'un de ses ex avant ma longue relation, ce garçon qui était si enthousiaste. J'ai le souvenir que on a fait ça un peu partout, et j'ai le souvenir notamment d'une fois où on l'a fait en haut d'une colline où se trouve une petite chapelle dans le village, dans mon village d'enfance. Donc vraiment à perte de vue, on voyait tout le paysage et donc on n'avait aucune barrière d'aucun type. Et c'était très drôle parce qu'on s'est rendu compte, mais vraiment 30 secondes après avoir remonté nos vêtements, que des gens arrivaient pour venir voir la chapelle. C'était très drôle.
Très bon timing.
Ouais, parce que moi je suis pas vraiment exhibitionniste, donc je pense que j'aurais été très très mal. C'est très bien goupillé, c'est juste un super souvenir, c'était rigolo.
J'ai déjà eu des soucis avec du matériel.
J'utilise des sextoys qui s'appellent des œufs tanga, qui sont des sextoys a priori plutôt pour les porteurs de pénis, mais que si on les retourne, en fait, ça marche très très bien sur les vulves, si bien que parfois ça peut se retrouver un peu loin dans le vagin si on y va un peu fort, et parfois c'est un peu dur à les récupérer, donc c'est ce qui s'est passé dernièrement. C'est pas vraiment un problème de matériel, mais les quelques secondes qu'il a fallu pour aller le récupérer, c'était assez drôle de se dire, mince, on n'a pas les doigts assez longs.
Parce que tu te détournes du matériel surtout aussi.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, non, à part les capotes qui craquent et qui sont bien embêtantes, non.
Ah, attends d'utiliser un go de ceinture, tu vas découvrir un monde merveilleux de galères de matériel. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom.
Alors, dont je connaissais pas le prénom, peut-être pas en fait, mais dont j'ai connu le prénom juste avant de le faire, oui.
Oui, toi, tu préfères quand même à peu près connaître la personne avec qui tu as un rapport sexuel.
Pas forcément, mais en tout cas, il s'est trouvé que je connaissais les prénoms, je pense, de toutes les personnes avec qui j'ai couché. Alors, je ne dis pas que je m'en souviens aujourd'hui, mais en tout cas, sur le coup, oui, je crois
mais
que...
Mais pas cette pensée de « mince, je ne sais même pas comment cette personne s'appelle ».
Non, je crois pas ça.
On va maintenant parler de ta dernière fois.
Oui.
C'était quand, cette dernière fois ?
Cette dernière fois, c'était il y a 3 jours. C'était chez moi et c'était avec 3 autres personnes.
Comment ça s'est passé ?
Ce sont des personnes que j'ai rencontrées un peu plus tôt, lors d'une précédente soirée plutôt orgiaque. Une soirée de la mouvance sex-positif. Ça faisait longtemps que je voulais inaugurer ce genre de sexualité à plusieurs. Ça se faisait pas, je désespérais, je comprenais pas pourquoi c'était si compliqué avec tous les partenaires que j'avais rencontrés, qui étaient assez libérés sur la question. On se disait qu'on avait envie de plans à 3, à 4, et en fait ça se faisait jamais, parce qu'il fallait que ce soit une personne qui nous plaise à tous les deux, à qui on plaise tous les deux, il fallait aligner 3 agendas, c'est bon, en fait ça s'est jamais fait comme ça. Et puis j'ai rencontré quelqu'un l'été dernier, qui a tout de suite mis carte sur table, je savais qu'il était polyamoureux, qu'il était très libéré sur la question de la sexualité, qu'il avait expérimenté beaucoup de choses et le sexe à plusieurs était vraiment, faisait partie de sa routine. Et on en avait parlé au début quand on s'est rencontrés et on a eu l'occasion donc dernièrement de faire cette première soirée ensemble où on était une vingtaine de personnes. Je parle de ça comme ça très naturellement, comme si c'était là, mais non, c'était très impressionnant et c'est vraiment un événement hyper marquant pour moi, avec un plus petit groupe de personnes, donc ces trois personnes-là, dont ce partenaire fait partie. On a décidé de remettre ça chez moi, donc quelques jours après cette première grande soirée. Et c'était il y a 3 jours, donc ce petit comité à 4.
Du coup, je suis obligée de te poser la question, mais on est donc en février 2021, le pays et même le monde est un peu bloqué depuis presque un an, un peu plus d'un an. Comment de tels moments peuvent avoir lieu? On imagine mal... dans un contexte de Covid, qu'on arrive à organiser encore des sex parties à...
Je dois dire qu'au début de cette histoire de pandémie, j'étais très frileuse à l'idée de voir des gens. J'ai vraiment passé un premier confinement terrible et seul, isolée complètement. Et puis, donc, il y a eu l'entre-deux confinements, donc l'été 2020, où j'ai fait plusieurs rencontres, dont celle dont je parle. Et je crois que petit à petit, ma parano-hygiéniste a commencé à se réduire, à mesure aussi que mon envie d'expérimenter des choses grandissait et que je voyais les possibilités que ça se fasse vraiment, donc avec cette personne-là, qui a été un trait d'union merveilleux. Enfin, c'est quand même lui qui m'a introduit dans ces soirées, mais même plus que ça, en fait, dans une façon de concevoir le sexe, etc. Donc ça a été possible même en période de pandémie et de couvre-feu. Alors tout ceci n'est pas très légal. Après, c'est quand même un petit peu organisé puisque on nous avait demandé en amont de cette première soirée de nous faire tester dans les pharmacies comme ce qui est mis en place en ce moment, c'est-à-dire un test antigénique qui prend même pas un quart d'heure. Et on nous a demandé qu'il soit négatif, ce qui était notre cas à tous. Donc voilà, c'est quand même un petit peu encadré. La soirée à 4 ensuite chez moi ne l'était beaucoup moins, évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose... quelque part, j'ai un peu lâché les chiens. Je pense qu'il y a eu un gros relâchement. Je sais pas encore hein, si j'assume complètement tout ça, mais en tout cas, ça s'est passé. J'en culpabilise pas, je me suis régalée. Mais voilà, ça s'est passé comme ça.
Comment ça se passe, le sexe à plusieurs, quand on n'a pas l'habitude?
C'est très impressionnant. Après, j'ai eu la chance de faire ça avec des personnes qui étaient très rodées à l'exercice. Donc, la toute dernière fois, c'était celle qui s'est passée chez moi en petit comité. On était 4, on était 2 hommes et 2 femmes. C'était des personnes que j'avais déjà rencontrées la semaine précédente dans cette soirée un peu plus large. Ça s'était hyper bien passé entre nous à la première soirée. Donc déjà, on s'entendait bien, pas seulement sexuellement. Certes, on savait qu'on se plaisait, on s'était déjà un peu mélangé. On a énormément rigolé. Moi, je pensais pas que c'était ça, ce genre de soirée, on a rigolé nu ou presque. Donc on était juste hyper contents de se retrouver, on avait prévu des trucs à boire, à manger, on a passé une soirée qui était, il y avait des moments normaux, alors pas spécialement habillée, mais en tout cas, moi j'ai été très étonnée de constater à quel point les choses se passaient de manière fluide. Il n'y a pas ce moment un peu gêné où qu'est-ce qu'on fait, on se saute dessus ou pas. Non, en fait, on a commencé à prendre un apéro, puis à discuter, puis à se rapprocher. Et puis voilà, les choses s'enchaînent, il y a des mains baladeuses ou des regards et ça part comme ça. Et j'ai le souvenir de vraiment quelque chose de hyper joyeux. C'était hyper important pour moi. C'était pas seulement sexuel, c'était très chouette aussi dans cette dimension-là, mais c'était surtout hyper joyeux et ludique.
Alors, tu parles d'une grande complicité. Est-ce que dans les faits aussi et dans l'instant, tu l'as vu, tu l'as senti, cette complicité entre vous quatre?
Ce qui était chouette, c'est qu'elle a circulé entre nous quatre, justement. Et même lors de la soirée précédente, il y avait quelque chose de très communicatif, très communautaire, qui touchait tout le monde. Pour moi, jusque-là, en fait, mon idée des plans à plusieurs, c'était surtout les filles, en fait, qui étaient les pivots de ces moments-là, parce que il me semblait, enfin, en tout cas, moi, je rencontrais surtout des partenaires masculins qui étaient hétérosexuels et très hétérosexuels. Il n'était pas question de toucher ou d'être touché par un autre homme. J'avais l'impression que c'était plus facile, mais parce que moi aussi, j'ai plus de facilité à aller vers les femmes que certains hommes à aller vers les hommes. Et en fait, lors de ces 2 soirées-là, ce que j'ai trouvé génial, c'est que les hommes, sans être forcément bisexuels, avec le tampon bisexuel, se mélangeaient beaucoup entre eux aussi. Et en fait, c'était ce qui était important pour moi, que le désir circule entre nous tous. Ça a vraiment... Il y avait tellement de possibilités parce que tout le monde avait du désir pour tout le monde. Peut-être qu'un des partenaires masculins n'était pas complètement bisexuelle, mais en tout cas, ça l'a pas empêché d'interagir avec l'autre homme qui était là, et de manière, encore une fois, hyper joyeuse et hyper enjouée. Et du coup, voilà, moi, j'ai le souvenir de quelque chose qui circulait sans arrêt entre nous, et d'une grande chorégraphie, et tout était, oui, très fluide et très chouette.
Est-ce que tu as pris du plaisir ?
J'ai pris beaucoup de plaisir. Si la question, c'est l'orgasme, je pense pas avoir eu d'orgasme, mais je crois que j'ai joui quand même d'une certaine manière. J'ai pris tellement de plaisir pendant toute cette soirée-là, parce que c'était quand même la première fois où je faisais du sexe avec une femme aussi. Donc c'était en fait ma dernière fois et aussi une première fois. Donc il y avait tout ça en fait, c'est ce moment où tu fais un nouveau truc et où c'est génial. Donc au-delà du plaisir physique, il y avait un plaisir de la découverte qui était... c'était fou quoi. Et c'était vraiment... J'ai eu énormément de chance, je pense. C'est vraiment les personnes idéales avec qui ça pouvait se passer.
Comment on organise une partouze chez soi ? Comment on se prépare ? C'est-à-dire, est-ce que toi, déjà, t'avais prévu une tenue, quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise ?
Cette soirée-là, elle a été prévue un peu à l'arrache. Je dois dire que après la première soirée, la grande soirée orgiaque qu'on avait eue, à laquelle mon partenaire et moi avions assisté, on s'était dit, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, on s'était dit, ça nous... en fait, c'est con, on aime passer du temps ensemble, on s'entend hyper bien, donc viens, on se revoit dès qu'on a une dispo commune. Et donc, en fait, il y avait ce créneau-là juste après. Et c'est lui qui m'a dit, parce que c'est un coquin, il m'a dit, mais on peut se voir tous les deux, mais tu veux pas qu'on invite d'autres personnes ? Et donc, il m'a suggéré les noms de ces deux autres personnes avec qui on avait passé aussi un bon moment la première fois. Moi, j'étais pas très chaude parce que, en fait, une fois que c'est toi qui reçois, c'est très différent. Je me sens encore, évidemment, novice. Et puis, j'ai commencé à proposer à l'autre garçon de venir. Il était super dispo et super enthousiaste. Et puis, j'ai proposé à cette fille de venir aussi. Et pareil, en fait, alignement des planètes, génial. Et là, ça a été tout un sketch parce que j'ai un appartement parisien où j'habite seule et donc c'est un petit endroit où c'est difficile de faire dormir quatre personnes. Donc je suis allée emprunter un matelas gonflable chez une copine, j'ai eu un problème de gonfleur, je me suis retrouvée à aller chercher des prises, bon bref, j'ai jamais réussi à le gonfler ce matelas-là. Donc ils étaient au courant, c'était pas grave en fait, c'est juste qu'ils pouvaient pas rester, les deux autres pouvaient pas rester sur place toute la nuit. Et puis comme pour la première soirée, je me souviens que mon partenaire m'a dit, quand je lui ai posé la question du dress code, il m'a dit, mais ce que tu veux, dans quoi tu te sentes belle et désirable? Et du coup, j'ai fait simple et bien m'en a pris puisque, en fait, c'est à peu près, je correspondais un peu au dress code général ce soir-là. Je me suis mis encore moins la pression pour le dress code. À un moment, je me suis demandé si j'allais pas sortir un corset. J'ai un super corset que je sors pour les grandes occasions, mais en fait, il est un peu pénible à enfiler, donc je l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire sur le ton de la plaisanterie, enfin, plutôt dans une idée de déguisement plutôt que de choses vraiment sexy. Donc non, j'ai fait simple, j'avais un grand décolleté sans soutien-gorge, mais c'est tout.
Efficace. Et bah du coup aussi, j'imagine que t'as prévu le dîner, tu savais qu'il restait pas petit déjeuner ?
Oui, j'ai fait à dîner, les comparses sont venus aussi avec des choses à grignoter ou de quoi faire des cocktails. Tout le monde a mis un peu la main à la pâte et c'était chouette, donc oui, on a dîné à un moment et puis on a fait d'autres choses à d'autres moments.
Ça t'a fait quoi de faire l'amour avec une femme pour la première fois ?
Ça faisait hyper longtemps que j'y pensais. J'ai eu une espèce d'épiphanie, je crois, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, où je me suis mise d'un coup, je sais pas d'où c'est venu, à regarder les femmes comme je regarde les hommes, c'est-à-dire avec du désir, à regarder leur corps comme quelque chose que j'ai envie de toucher, enfin, comme quelque chose de sexualisé, en fait, en étant toujours aussi respectueuse. Pas de raison que d'un coup je devienne pas respectueuse avec les femmes alors que je le suis avec les hommes. Et j'ai eu un grand appétit pour ça, j'avais vraiment très envie, et c'était d'autant plus frustrant que je voyais que, bah, par exemple, quand on imaginait des plans à trois avec mes partenaires hommes, ça se faisait jamais parce que c'était compliqué. J'avais nourri une espèce de frustration. Enfin, je me disais que ça allait finir par arriver, je savais pas trop comment. Là, c'est vrai que dernièrement, les événements se sont un peu enchaînés rapidement sans que je comprenne trop ce qui m'arrive. C'était génial, en plus, parce que le partenaire qui m'a fait rencontrer ces personnes-là savait que c'était la première fois que je faisais ça. Il savait que j'en avais très envie. Et donc, il y a eu une espèce des échanges de regards complices avec lui pendant que ça se faisait, où il était hyper heureux pour moi et moi, j'étais hyper heureuse qui vivent ça avec moi. C'était génial, je me suis sentie un peu con comme toutes les premières fois où je savais pas si je lui donnais du plaisir, même si a priori la tuyauterie c'est la même que la mienne, mais je savais pas si ce que je faisais était réellement efficace ou pas. C'était génial et elle était très contente de vivre ça. Et
tu penses que ça va se refaire, une soirée comme ça ou avec ces gens ?
Je pense qu'on va se revoir. Cette petite configuration à quatre fonctionne hyper bien. Et on a surtout, tous les quatre, on a très très envie de... On n'a pas arrêté de parler de concepts de soirée, voire de week-end, soit où on habite à Paris, soit un peu à la campagne. Donc oui, ça va se refaire. On en a tous très envie, donc je vois pas pourquoi ça se referait pas.
Merci Anna d'avoir partagé ton histoire avec nous, et puis on te souhaite évidemment plein de belles soirées par la suite et plein de belles rencontres surtout.
Merci.
C'était Première et Dernière Fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et Dernière Fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.